Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique. Et aujourd'hui, comme dans l'homélie, nous allons parler du salon du mariage en avant-goût. J'ai envie de parler des fleurs, parce que je reviens du salon du mariage et qu'il y avait des fleurs, des mariés absolument partout. Donc, trois petites capsules pour parler des fleurs, ce qui sera une manière à nous de rendre grâce à Dieu pour la beauté de sa création. Des fleurs, il y en a de toutes les couleurs, et quand Dieu créa les fleurs, il vit que cela était beau. Et de fait, quand même, parler des fleurs, c'est parler de la beauté du monde, c'est déjà rendre grâce à Dieu. Des fleurs, il y en a des blanches, il y en a des rouges, il y en a des roses, il y en a des jaunes, il y en a des bleus. Et parce que l'homme a un cerveau, il ne peut pas s'empêcher, à travers ses couleurs, de cogiter, de méditer, de contempler et de donner une signification à ses couleurs. De manière assez universelle, le blanc symbolise la pureté, l'innocence et la paix, même si parfois en Asie, les fleurs blanches sont associées au deuil. Alors évidemment, on les utilise moins dans le mariage. Le rouge, lui, est associé à la passion, l'amour intense. Dans les mariages indiens, c'est aussi une couleur sacrée qui symbolise la fertilité et la prospérité. Vous avez ensuite le rose qui lui exprime, parce que le rose est à mi-chemin entre le rouge et le blanc, il y a comme une sorte de douceur, de romantisme. Ça symbolise la tendresse, le rose. C'est la passion, mais la passion qui s'est entre guillemets calmée, dans le bon sens du terme, parce qu'il s'est calmé à force de délicatesse et d'amour tendre et sincère. Le jaune, ne l'utilisez pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est associé à la jalousie et à la tromperie, notamment en France. Nous pourrions continuer avec les autres couleurs, le bleu, symbole de la fidélité, le vert, symbole de spiritualité, mais il est temps de parler des différents types de fleurs que parfois l'on utilise dans les mariages. Il y a d'abord évidemment la reine des fleurs, la rose, qui symbolise l'amour universel. Les roses rouges expriment la passion, les roses blanches incarnent la pureté, le fin du fin étant les roses sans épines qui, elles, symbolisent la Vierge Marie qui était l'Immaculée Conception. Les lys, en Occident, associés à la pureté et à une certaine forme de royauté, et qui dans les mariages symbolisent la beauté et la dévotion. C'est une sorte de noblesse dans le mariage. La pivoine, plutôt en Chine ou au Japon, qui symbolise la prospérité et la richesse que l'on utilise énormément dans les mariages. Les marguerites, symboles d'innocence et de simplicité. Les orchidées, symboles d'élégance, de sensualité et de raffinement. En Asie, dans les mariages, ça représente la fertilité et la longévité. Bon, et il y en a évidemment encore d'autres. Je termine en citant le jasmin, la pureté et la grâce, notamment dans les mariages indiens. La couleur des fleurs, les différents types de fleurs, mais aussi les bouquets. Par exemple, en Inde, il y a des guirlandes de fleurs que l'on met autour du cou et que les mariés s'échangent comme symbole d'acceptation mutuelle. Si vous voulez, c'est l'équivalent de l'échange des anneaux en Occident. C'est pas tout à fait la même chose, mais on se rapproche de là. Au Japon, vous pouvez aussi avoir des fleurs de cerisier, des sakura, qui peuvent être intégrées dans des bouquets pour symboliser la beauté éphémère de la vie. Il y a toujours cette sagesse dans l'Extrême-Orient. En Occident, il y a la tradition de jeter le bouquet de la mariée. Ça vient du Moyen-Âge. C'est une manière un peu superstitieuse de transmettre la chance et l'amour à celui qui l'attrape. Mais l'autre grande tradition est en Occident d'offrir le bouquet de la mariée à la fin de la messe à la Vierge Marie, de les déposer en procession au pied d'une statue. C'est une manière de placer son couple sous la protection de la Sainte Famille et de demander à Marie, la reine des reines, la grande sainte, de venir veiller avec son regard maternel sur le couple qui vient d'être créé à travers le mariage. Chose promise, chose due, nous passons maintenant à la lecture de l'Évangile et à son commentaire. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais faire jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque, et ceux-ci vinrent les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Au moment où je commente cet évangile, je suis en train de sortir du salon du mariage. Le salon du mariage, c'est un salon porte de Versailles qui se tient deux fois par an, mais celui-ci, c'est le grand salon. Il y a environ 400 stands et je pense que c'est en dizaines de milliers que des personnes viennent visiter le salon du mariage pour choisir les uns leur voiture, les autres leur robe de mariée, la barbe à papa, la coiffure et les salons pour se blanchir les dents le jour du mariage. Pourquoi je vous dis cela ? Je vous dis cela parce que, tel que vous m'écoutez en ce moment, je suis crevé, mais vraiment, mais épuisé, pour avoir passé tout le salon du mariage à évangéliser. Et évangéliser de manière à la fois surprenante et de manière simple, et ça va nous ramener à l'évangile. De manière étonnante parce que ce n'est pas dans un endroit comme ça qu'on s'attend à voir en moine. Et j'étais avec mes habits, j'étais en train de parler de Dieu, et j'étais en train d'évangéliser, et de manière totalement banale si je puis dire, parce que je n'étais pas en train de faire de l'évangélisation de rue à aller au-devant des personnes pour, si jamais je peux dire, à tout prix leur vendre ma marchandise, Bible à l'appui, et leur annoncer la conversion des mœurs. Non, j'avais tout simplement pris un stand que j'avais loué, dans lequel j'avais mis des croix et j'avais dit « Préparation religieuse pour la cérémonie de mariage. » Et évidemment que dans un salon comme ça, ben j'avais toute ma place. Et c'est là où j'en viens maintenant à l'évangile. L'évangile nous dit que Simon-Pierre a essayé de pêcher toute la nuit, mais en vain. Et à quoi cela me fait-il penser ? Ben cela me fait penser aux sacristies, à nos messes et à nos circuits bien rodés, si jamais je puis dire, de l'évangélisation, dans lesquels nous sommes au meilleur de notre forme, parce que la sono est bonne, parce qu'on a bien choisi les textes, parce qu'il y a des sièges et qu'on n'attend plus que les gens viennent nous écouter. Sauf que les gens ne viennent pas et que bien souvent nous nous épuisons à préparer des beaux sermons dans des messes dans lesquelles pas beaucoup de personnes viennent. Parce que l'idée derrière, c'est que nous sommes persuadés que c'est au bon moment, à la bonne heure, quand nous serons prêts, que les gens viendront écouter la parole de Dieu. Et ça ne marche pas, et il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vienne. À l'inverse, Jésus s'éloigne du rivage pour prêcher. Jésus s'éloigne du rivage, vous pouvez entendre ça de manière assez simple, Jésus sort de sa zone de confort et en fait va là où les gens ne les attendent pas. De la même manière, il demande aux disciples de jeter les filets le jour, ce qui normalement ne se fait pas. Parce que normalement, dans le lac de la Galilée, c'est la nuit que les eaux sont fraîches et que les poissons remontent, tandis que dans la journée, les eaux en surface deviennent plus chaudes et les poissons vont en profondeur. Donc là, ils pêchent entre guillemets à contre-courant. Normalement, dans un lieu, ils ne sont pas censés ramener des poissons. Et ça marche. Eh bien, c'est de la même manière que j'ai pris mon stand, qui était ma barque à moi, mon petit stand que j'avais loué pour l'occasion et que j'avais jeté mes filets à coups de néon, à coups de QR code pour avoir des podcasts et à coups de bonne humeur. Et les poissons étaient là. Mais les poissons, mais en veux-tu, en voilà, par dizaines, par centaines, le nombre de personnes qui sont venues me voir parce que divorcée, remariée, elle voulait quand même avoir une bénédiction, mais elle n'osait pas aller à l'église parce qu'elles avaient peur. et que moi j'étais là pour les rassurer, pour leur dire qu'on avait compris, que la vie était compliquée, que le pape maintenant avait, j'ose pas dire, assoupli la discipline, mais plutôt avait permis à chacun de pouvoir rentrer dedans avec son histoire personnelle, qu'il n'y aurait pas de compromis, il n'y aurait pas d'ambiguïté, mais que maintenant on était capable de les accompagner et de leur permettre de vivre leur situation avec Dieu. Le nombre de personnes homosexuelles qui cherchaient une parole de réconfort de la part de l'Église et qui n'osaient pas en trouver, qui étaient en train de préparer leur couple, leur mariage homosexuel à 10 000 lieues de l'Église. Alors oui, on va pas changer le discours de l'Église. N'empêche que pour une fois, on était capable de reprendre une discussion qui s'était arrêtée de manière trop brutale. Le nombre de personnes qui étaient un peu loin de l'Église et qui étaient allées voir leur curé, et le curé, bonne poire, mais surchargé de travail, leur avait dit « Mais non, mais écoutez, si jamais vous habitez Paris, moi je ne vais pas vous marier à la campagne », et qui donc bah maintenant, comme les gens sont à milieu de l'église qui avait été rebuté par cette première prise de contact et qui maintenant, bah, il n'y avait plus de mariage religieux du tout. Et moi j'étais là pour leur dire, mais non, mais rassurez-vous, mais il faut comprendre les prêtres aussi qui sont épuisés, et quand ils voient tous les Parisiens qui arrivent venus de nulle part, ils ne comprennent pas, donc allez faire votre préparation à Paris. Vous demanderez l'autorisation d'aller vous marier à la campagne et ça se passera très bien. Mais c'est par dizaines, c'est par centaines, j'ose pas dire par milliers parce qu'il faut pas exagérer quand même, mais vous voyez, c'est ça l'évangile, devenir pêcheur d'hommes, les brebis perdues de la maison d'Israël, et on n'invente pas des occasions, c'était pas artificiel, j'étais simplement là où les gens étaient avec leurs questions. Là, c'était le salon du mariage. Pour vous, ce sera la machine à café dans votre entreprise. Pour d'autres personnes, ce sera encore la cour de récréation dans un collège ou dans un lycée. Mais c'est là que se fait l'évangélisation. Et c'est là que Dieu vous attend. Et c'est là que c'est efficace. Donc, sursum corda, haut les cœurs. La vie est belle, vous habitez dans un pays merveilleux dans lequel il devient de plus en plus facile d'évangéliser. Les pêcheurs d'hommes, c'est vous.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.